les par actualités.
Bonjour à toutes et à tous, Clotilde Sey au micro de Canal M pour vous présenter ces par actualités. Alors les titres aujourd'hui, je vais tout de suite m'entretenir avec Marie-Hélène Poulain, professeure en développement humain et social qui a été nommée au Cercle d'excellence pour sa contribution exceptionnelle à l'UQAT avec des projets sur le trouble du spectre de l'autisme. Également à l'émission aujourd'hui, l'Hôtel Dieu restera ouvert jusqu'en 2021 à Montréal et le 16 septembre sera la 35e journée d'action contre la violence faite aux femmes. En région, une nouvelle école controversée à Elmer. On veut plus d'accessibilité aux soins palliatifs à Sherbrooke. La pièce « Tribu » ouvre la programmation du Théâtre Hector Charland de l'Assomption. Dans le cadre des paractualités nationales et internationales, à Vancouver, des ministres fédéraux et provinciaux se penchent sur la vie des personnes âgées. Aide médicale à mourir, toujours pas de données pan-canadiennes. Et puis, cellule souche, un homme tétraplégique retrouve l'usage de ses bras et de ses mains. Et nous finirons bien sûr l'émission par quelques nouvelles en rafale. Bonjour, je devrais avoir Marie-Hélène Poulain au téléphone.
Oui, bonjour.
Bonjour, Madame Poulain. D'abord, félicitations.
Merci.
Parce que je pense que c'est énormément de travail, ce que vous avez réalisé et tout ce beau boulot que vous faites en tant que professeur en développement humain. Hein, je cite ce que j'ai sous les yeux, et social. Et vous avez été nommée, c'est quand même un prix assez prestigieux, au Cercle d'excellence pour votre contribution exceptionnelle à l'UQAT. Autrement dit, c'est l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue. C'est bien ça, hein?
Oui, tout à fait.
Alors, ce prix, d'abord, parlons de vous. Est-ce que ça va changer quelque chose dans votre vie, Madame Poulain?
En fait, c'est clair que c'est un encouragement sans limite pour m'aider à poursuivre parce que la recherche en sciences humaines et sociales est un combat de longue haleine. Mais oui, c'est sûr bon. Que c'est bon pour l'ego. Mais je le dois aussi à mes étudiantes qui partagent ma passion et qui me font confiance pour m'accompagner dans des projets qui parfois peuvent avoir l'air un peu ambitieux. Mais je suis jamais seule dans ces aventures.
Parlons-en de ces projets-là, madame. Il y en a deux, hein, Madame Poulain, sur lesquels vous avez beaucoup travaillé. Parlez-nous de ces deux projets-là.
Oui, en fait, les deux derniers qui ont été primés par l'Ordre des psychoéducateurs du Québec sont partagés avec des étudiants. Donc, le premier, qui est la plateforme web A pour autre, qui s'adresse à, en fait, toute personne qui veut parfaire ses habiletés sociales. C'est deux vidéos qui ont été développées interactives. Donc, l'utilisateur fait des choix sur des comportements à adopter dans certaines situations. Et il y a un guide aussi qui accompagne, qui est plus spécifiquement sur les habiletés sociales des personnes autistes, pour bien mettre en contexte. Et ce projet-là a été fait en collaboration avec Vanessa Ménard, qui est maintenant psychoéducatrice. Et le deuxième est une trousse de sensibilisation qui s'adresse aux personnes non autistes, en fait, pour mieux comprendre et pour sensibiliser aussi la population. Donc, les services de garde, les écoles... la plupart des milieux, en fait, l'utilisent, comme je disais, pour sensibiliser. C'est 8 outils, mais qui peuvent être utilisés en parallèle. Et ces deux outils-là sont téléchargeables gratuitement sur Internet.
Évidemment, c'était ma prochaine question. Comment vont faire les gens intéressés? Donc, c'est par Internet. Est-ce qu'il y a un site? J'imagine que oui, il doit y avoir un site très, très précis.
La plateforme web, en fait, c'est son nom. C'est www.apourautre.ca.
Ah, ça c'est facile, oui.
Et le guide de 90 pages qui est complètement téléchargeable gratuitement. Et le deuxième, c'est sur ma page uqat.ca. Vous cherchez mon nom dans le bottin, vous allez tomber sur ma page de chercheur où vous allez pouvoir télécharger tous les outils de façon gratuite sur Mac ou sur
Oui, l'autre. On a PC. Toutes les deux un blanc sur PC. Exactement. Alors, je précise pour tous ceux qui nous écoutent que Poulain, ça s'écrit bien P-O-U-L-I-N, Marie-Hélène Poulain. Quand vous disiez tantôt que le projet A pour autre, il ne s'adressait pas qu'à des autistes. Hein?
Non, en fait, les milieux scolaires nous ont partagé leur avis puisqu'on a procédé à l'évaluation l'an dernier, un an après son lancement, et en scolaire, en privé, les professionnels l'utilisent aussi avec, par exemple, des adolescents qui ont un trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité ou divers troubles du comportement, troubles du langage qui peuvent affecter, en fait, la sphère sociale. Et ces élèves-là bénéficient aussi, en fait, de ces images-là parce que c'est interactif, c'est une vidéo vraiment d'une petite famille et d'un enfant qui invite un ami à jouer aux jeux vidéo à la maison. Donc, c'est vraiment des situations quotidiennes qui peuvent rejoindre beaucoup de jeunes. Et on décortique les habiletés sociales qui sont utiles, en fait, pour bien réussir dans ces situations-là.
Et est-ce que vous pourriez nous en citer quelques-unes, par exemple, de ces situations-là?
Oui, tout à fait. Si je prends la scène qui a invité un ami à la maison, on voit les deux adolescents au moment où il invite son ami par téléphone à jouer chez lui. Donc, quelles sont les informations qu'il doit fournir à l'ami pour qu'il puisse faire un choix et ensuite pour le diriger. Donc, est-ce que tu viens me rejoindre chez moi, tu apportes ton jeu, on va jouer à, et on attend sa réponse et ensuite on dit bonjour et on raccroche. Ça peut sembler simple, mais...
non, c'est ça, exactement.
Ça n'est pas nécessairement. Et dans le guide, on a aussi un outil téléchargeable pour diriger le jeune qui pratique, en fait, à adresser un appel téléphonique. Ensuite, il doit accueillir à la maison l'ami en question lorsqu'il arrive. Donc, le saluer, lui ouvrir la porte, prendre son manteau.
OK, des choses comme cela.
Oui, effectivement, qui peuvent paraître banales pour la plupart des gens, puisqu'on apprend souvent par imitation, mais qui ne sont pas nécessairement le cas pour tout le monde.
Écoutez, ça me semble passionnant, Marie-Hélène Poulain. Encore une fois, bravo pour votre prix. Je voudrais qu'on rappelle comment on peut se procurer d'abord cette trousse aussi, parle-moi de TSA, pour en savoir un petit peu plus sur ce trouble. Alors ça, il suffit d'aller, on écrit votre nom simplement sur le web, Marie-Hélène Poulain?
Tout à fait, vous allez tomber sur ma page U4 et à ce moment-là, dans mes projets, vous allez pouvoir avoir et la plateforme A pour autre et un lien aussi vers les outils de la trousse. On va aussi faire des présentations cet automne sur les deux outils.
Eh bien, bravo. Bravo à vous, vraiment, et pour ces outils, pour ces projets et pour ce prix. Et puis, bravo aussi à vos étudiantes qui
beaucoup,
ont collaboré.
Président.
Je vous en prie. Bonne journée,
Bonne
Marie-Hélène
journée,
Poulain. Au revoir. Actualité maintenant à Montréal et sa région. Le nouveau CHUM, vous savez, pousse. Maintenant, il est même carrément sorti de terre. Tout se passe à l'intérieur. Il n'est pas encore ouvert. Mais que va-t-il se passer avec l'Hôtel Dieu? Eh bien, on peut lire sous la plume d'Ariane Lacourcière dans la presse que dans un souci de gestion saine des fonds publics, Québec vient de demander au centre hospitalier de l'Université de Montréal de regrouper une partie de ses services ambulatoires et les bureaux de ses médecins à l'Hôtel Dieu, le temps que le nouvel hôpital soit entièrement terminé, jusque donc en 2021, c'est ce qu'a appris la presse. Initialement, l'ensemble des cliniques externes et des bureaux de médecins devaient plutôt être relocalisés temporairement dans des locaux entourant la phase 1 du projet au centre-ville de Montréal. Comme les locaux de l'Hôtel Dieu seront disponibles, ils pourront être utilisés pour ainsi dire à coût nul, explique Karine White, porte-parole du ministère de la Santé et des services sociaux du Québec. Également à Montréal, on vous croit, ce sera le 16 septembre prochain, la 35e journée d'action contre la violence sexuelle faite aux femmes. Le regroupement québécois des centres d'aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel souligne le vendredi 16 septembre 2016 la 35e journée d'action contre la violence sexuelle faite aux femmes sous le thème « On vous croit ». En cette journée de solidarité, nous pensons tout particulièrement aux femmes autochtones qui élèvent leur voix contre la violence envers leurs sœurs, mais également aux femmes qui vivent différents contextes de vulnérabilité accentuant les risques d'agression sexuelle, que ce soit en raison d'un statut d'immigration précaire ou d'une situation de handicap ou des préjugés face à leur appartenance culturelle ou à leur orientation sexuelle. La journée d'action contre la violence sexuelle du 16 septembre 2016 est un des moyens que nous avons choisi pour sensibiliser le public sur la problématique des agressions sexuelles. Il y aura divers événements qui seront organisés un petit peu partout au Québec. Un site internet vous est recommandé, le www.rqcalax.qc.ca. Je profite de cette... parce que c'est toujours un petit peu difficile de vous donner ça au micro, pour vous dire que vous savez que sur notre site internet, vous pouvez retrouver absolument toutes ces informations que je vous donne, y compris les numéros de téléphone et les sites internet qui, je le sais, sont quand même très difficiles à prendre en note en direct. Alors donc, n'hésitez pas d'aller sur notre site internet au www.vusezvoix.com. Ou voilà, de toute façon, vous tomberez forcément sur notre page. Québec et région, des parents d'Elmer craignent les conséquences de l'ouverture d'une nouvelle école au parc Clétrem. Des parents du secteur d'Elmer à Gatineau s'inquiètent de la modification prévue des zones desservies par certaines des écoles de la commission scolaire des portages de l'Outaouais. Les changements qui coïncident avec l'ouverture d'une nouvelle école au parc Clétrem pourraient entrer en vigueur dès l'an prochain. Les nouvelles mesures toucheront les écoles du Vieux-Verger, des Trois-Portages, des Tournesols, Euclide Lantier et International du Village. La CSPO souligne que trois classes spécialisées pour les élèves handicapés ou en difficulté du secteur ouest sont aussi visées. Alors évidemment, déplacer la clientèle scolaire, c'est toujours une chose délicate à faire. Il y a des craintes qui sont liées notamment à la sécurité. Dans un document de travail, la CSPO indique qu'elle veut entre autres s'assurer que davantage d'élèves puissent fréquenter leur école de quartier. Elle veut aussi encourager plus d'élèves à se rendre à l'école à pied. Ce qui n'est pas sans susciter, vous l'imaginez bien, certaines questions. « C'est bien, on s'en va vers les marcheurs », a souligné un père. Mais qui dit marcheur dit rue, dit des endroits où les automobilistes ne sont pas habitués à voir des enfants. Et par ailleurs, si certains parents étaient visiblement inquiets, d'autres nous ont confié être satisfaits des changements proposés par les responsables scolaires. Une autre voix s'élève pour demander plus d'accessibilité aux soins palliatifs à Sherbrooke. On voit en photo Suzanne Nadeau-Vissel, atteinte de la SLA. J'espère que le CHU ne songera pas trop longtemps. Le CHU, donc, à Sherbrooke, ne songera pas trop longtemps avant d'agir. Peu m'importe la maladie, les besoins de chaque mourant et leurs proches sont les mêmes. Ils ont tous besoin d'être accompagnés afin de recevoir l'aide physique, psychologique et psychosociale dont ils ont besoin, a confié par la voix de sa tablette électronique cette femme qui est atteinte de la SLA, donc la sclérose latérale amyotrophique, et qui milite pour l'accès aux soins de fin de vie. Les patients atteints de cette maladie ont une espérance de vie de 5 ans et moins. Ailleurs en Estrie, la maison Aube Lumière à Sherbrooke ne dessert elle aussi que des patients atteints de cancer. La direction affirme que la clientèle pourrait éventuellement s'élargir, mais ne veut pas créer de faux espoirs. On a des taux d'occupation très, très élevés juste avec des personnes qui ont le cancer. Dans notre cas, on se dit on n'arrive pas à répondre à cette demande, donc c'est difficile de modifier la mission de la maison, soutient la directrice générale Marie Bécotte. Il faut dire que la médecine est mieux en mesure de déterminer à quel moment peut survenir la mort comparativement à d'autres maladies. Si un patient devait rester durant plusieurs mois dans un établissement, des ressources déjà rares seraient monopolisées. La maison La Cinquième Saison de Lac-Mégantic et la maison Au Diapason de Bromont sont ouvertes à tous les cas de patients en fin de vie. Dans le cas de cette dernière, les patients qui ne sont pas atteints d'un cancer représentent 8% de la clientèle. Et enfin, une page culturelle en région. Le théâtre Hector Charland ouvrira sa programmation théâtrale le 20 septembre avec la pièce Tribu, écrite par Nina Rennes, qui raconte l'histoire de Billy, un sourd de naissance qui ne connaît pas la langue des signes. Il l'apprendra secrètement et bouleversera ainsi sa cellule familiale. En fait, cela arrive souvent que les parents d'un enfant sourd ne lui apprennent pas le langage des signes, de peur qu'il s'isole au sein de la communauté sourde et malentendante. Alors, Billy lit sur les lèvres, mais à la fin de la vingtaine, il veut vivre sa vie et voir des choses. Et il confronte sa famille, qui ne veut pas faire l'effort d'apprendre le langage des signes, résume David Lorrain, qui est le comédien qui incarne Billy. Et puis, vous le savez, tous les jours, j'ai la chance de pouvoir m'entretenir avec quelqu'un, avec des gens qui agissent, des gens qui font partie de ces organismes dont nous avons tant besoin dans le milieu du handicap. Et aujourd'hui, je m'adresse, et elle est en studio, ça me fait très plaisir de vous parler. Bonjour, vous êtes Alice Charras.
Oui, bonjour.
Bonjour, Madame Charras. Vous êtes directrice générale du réseau alternatif et communautaire des organismes en santé mentale de l'île de Montréal, qu'on appelle plus aisément le RACCORD.
Exact.
Hein? C'est bien ça. Je voudrais que vous nous présentiez le RACCORD. Qu'est-ce que c'est que cet organisme, Madame Charras?
Alors, comme vous l'avez dit, on est un réseau donc alternatif et communautaire pour les organismes en santé mentale situé à Montréal. Donc, c'est toute l'île de Montréal. C'est 90 organismes, en fait. Donc, c'est quand même une forte quantité et c'est oui. très varié au niveau des services en santé mentale qui sont offerts. On les a catégorisés, en fait. Donc, je vais pouvoir vous dire à peu près D'accord. à quoi correspondent ces organismes-là. On a de l'aide, l'entraide. On a des centres de jour et de soir, des organismes en défense des droits, des organismes pour les proches aussi, donc oui. des personnes oui. ayant des problèmes de santé mentale, l'hébergement, le logement également, l'écoute et l'intervention téléphonique. On a également de l'aide à l'étude scolaire pour certaines personnes. On a aussi des organismes qui vraiment interviennent dans les situations de crise. La sensibilisation, la prévention, promotion, également du suivi communautaire. Ça, c'est plus du suivi dans le milieu lorsque les intervenants vont rencontrer les personnes mmh. dans leur milieu de vie directement. Donc, comme vous voyez, c'est assez
c'est
diversifié.
Vaste, c'est varié.
C'est très vaste.
Ça représente combien de personnes, ça, Madame Charras, à peu près? Est-ce qu'on le sait? Parce que c'est... Non, c'est une bonne question. Là, j'ai l'impression qu'elle vous
question.
Ennuie un petit peu. Alors, oubliez ça, Madame Charras. Quel est précisément le rôle du RACCORD en santé mentale?
Alors, le rôle du RACCORD en santé mentale, c'est vraiment de représenter ces organismes membres du communautaire, donc auprès des instances. C'est aussi de pouvoir les accompagner, les informer au mieux, mm-hmm. Donc sur tout ce qui pourrait les concerner donc en santé mentale. Donc, on a aussi, donc, on insiste beaucoup sur tout ce qui est volet communication. On a oui. un site Internet. Donc, l'adresse, je vais vous la donner.
Oui, d'accord,
site Internet,
bien sûr.
C'est RACCORD, RACCOR, sm.org. Et sur ce site-là, on a vraiment tous nos organismes communautaires qui sont répertoriés. Donc, si quelqu'un chercherait justement un organisme oui. communautaire en santé mentale à Montréal, il pourrait trouver cette information-là sur le site. Mais également, on profite de Facebook et Twitter pour informer également le grand public sur tout sujet qui pourrait intéresser en santé mentale.
Oui.
D'ailleurs, on est quand même suivi par plus de 1000 personnes sur Facebook.
Ah, c'est fun, oui.
Et également 800 personnes à peu près sur Twitter. Donc, on est très, très actifs au niveau de la communication.
Mais juste sur l'île de Montréal, on s'entend.
Oui, c'est ça. Mais c'est vrai que les sujets vont quand même être très larges
voilà.
pour ce qui est de Facebook
voilà.
et Twitter. Donc, une personne pourrait avoir de l'information qui ne resterait pas à Montréal, pourrait quand c'est même ça. Trouver de l'information pertinente sur le RACCORD.
D'accord. Donc, si quelqu'un en ce moment nous écoute d'Alma, de toute façon, les réponses seront toujours là et elles sont bonnes qu'on habite à Alma ou qu'on habite à Montréal.
Exactement.
Hein? D'accord. Donc, je vous ai bien suivi. Quels sont les dossiers chauds en ce moment, Madame Charras, dans le domaine de la santé mentale?
Les dossiers chauds, si on veut, bon, comme vous le savez, il y a eu la réforme de la santé et des services sociaux, donc qui a fait en sorte que, au niveau du découpage des établissements de santé, ça a un peu déstructuré toutes les acquis qu'il pouvait y avoir entre le communautaire et le milieu institutionnel. Donc, à Montréal, c'est très spécifique parce que nous avons 5 CIUS, des centres intégrés universitaires de santé et de services sociaux, comparativement aux autres régions. Généralement, c'est un établissement maintenant. Donc, nous, Raccord, comme objectif que nous avons, c'est aussi de pouvoir vraiment permettre un pont de communication entre ces institutions, ces nouvelles grosses structures, si on veut, et le communautaire. Donc, toujours faire valoir qu'est-ce qui se fait dans le communautaire. Puis, parfois, ça peut même se traduire par des partenariats. Là, on n'est pas... On est vraiment là pour être la voix du communautaire en santé mentale. Donc, ça, c'est un des enjeux où il faut regarder comment on peut mieux collaborer, là, ensemble, avec ces nouveaux changements. En événements à venir, qui sont quand même intéressants et que je comptais vous dire aujourd'hui, qui vont se dérouler à Montréal même, il y a un événement qui s'appelle Montréal Marche pour la santé mentale.
Oui.
C'est un événement bilingue, donc ça concerne vraiment... anglais et français. C'est organisé par des organismes communautaires, dont le Raccord et des organismes membres du Raccord. Et c'est un événement, en fait, qui se déroule au centre-ville et c'est vraiment, on marche vers un monde sans préjugés dans un objectif vraiment de rendre plus visible cette réalité-là qui concerne toute la population. La santé mentale, c'est vraiment précieux pour chacun. Et juste pour vous dire, les deux grands partenaires financiers cette année sont Belle pour la cause et aussi les cinémas de Guzzo. Donc, c'est quand même un gros événement. Et
ça se passe, rappelez-moi, c'est quand et où?
Donc, c'est dimanche 16 octobre à 11h du matin.
OK.
La marche commence au carré Philips, coin Sainte-Catherine et Union.
D'accord.
Et les personnes peuvent s'inscrire gratuitement. En fait, ça, c'est pour qu'on comptabilise combien de personnes vont participer à la marche. Peuvent s'inscrire gratuitement en ligne sur le site mtlmarche.com.
D'accord.
Où elles peuvent s'inscrire dès 10 heures sur place par le biais d'un formulaire. C'est sûr que c'est toujours plus pratique de le faire en ligne que lors de l'événement, mais ça peut être fait également
Écoutez, toutes les informations, je les ai prises en note. Vous avez peut-être entendu le petit grattement sur la table. Comme ça, je vais pouvoir communiquer ça pour que les infos se retrouvent aussi sur notre site Internet. Aviez-vous un autre événement dont vous vouliez nous parler?
Je voulais juste préciser que cet événement-là amassait des fonds, mais les marcheurs ne sont pas obligés de mettre des dons. Et ces dons-là sont remis généralement aux organismes communautaires en santé mentale qui ont divers projets. L'année dernière, c'était 45 000 $ quand même qui avaient été amassés.
C'est fantastique. Alors, je m'entretenais avec Alice Charras, directrice générale du Raccord, le réseau alternatif et communautaire des organismes en santé mentale de l'île de Montréal. Madame Charras, qu'on aura l'occasion de recevoir à nouveau à cette émission. C'est un grand plaisir.
Ça me fait plaisir. Merci.
Bonne journée. National maintenant, par l'actualité, oui, je vais finir par le dire, national à Vancouver, les ministres fédéraux, provinciaux et territoriaux responsables des aînés se sont réunis aujourd'hui à Vancouver pour discuter d'enjeux clés qui touchent les Canadiens vieillissants, tels que la préparation des proches aidants et l'inclusion sociale. La réunion a été co-présidée par le ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre fédéral responsable des aînés, l'honorable Jean-Yves Duclos, et par le ministre de la Santé de la Colombie-Britannique, l'honorable Terry Lake. Plus particulièrement, ils ont discuté de l'importance de soutenir les aînés pour leur permettre de recevoir des soins à la maison et des besoins en logements abordables. Ils ont également convenu de donner suite aux priorités, par exemple, promouvoir l'inclusion sociale des aînés. Les ministres se sont entendus pour diffuser une trousse d'outils innovatrices destinée à réduire l'isolement social et pour trouver de meilleures façons de favoriser la participation active des Canadiens âgés à l'économie et à la société civile. Le Forum fédéral, provincial et territorial des ministres responsables des aînés a été établi en 1992 par les gouvernements fédéraux, provinciaux et territoriaux pour faire progresser les questions d'intérêt commun. Les ministres mettent l'accent sur des mesures et des projets concrets et collaboratifs qui amélioreront la vie des aînés. Par actualité nationale encore, aide médicale à mourir, toujours pas de données pancanadiennes. 3 mois après l'entrée en vigueur de la loi fédérale sur l'aide médicale à mourir, le gouvernement Trudeau n'a toujours pas mis en place un système de collecte des données à l'échelle du pays. La ministre fédérale de la Santé, Jane Philpott, a toutefois indiqué que des discussions avaient lieu avec les provinces pour qu'Ottawa se dote d'un tel mécanisme. Nous sommes vraiment déterminés à nous assurer qu'il y ait de bonnes données pan-canadiennes. Il y a d'ailleurs une exigence à cet effet comprise dans la loi. Mes fonctionnaires travaillent étroitement avec les provinces et les territoires afin de trouver un processus pour cela et un mécanisme très clair sera instauré, a-t-elle indiqué mardi, à la sortie d'une réunion du cabinet à Ottawa. Rapidement, à l'international, un homme tétraplégique après qu'il ait subi un accident de voiture, Christopher Bozen, 21 ans, a retrouvé l'usage de ses bras et de ses mains 3 mois après une injection de 10 millions de cellules souches dans la moelle épinière, donc dans la région cervicale aussi, rapporte le docteur Charles Liu de l'Université de Californie du Sud et de ses collègues. 2 mois après la chirurgie, le jeune homme a commencé à montrer des signes d'amélioration et 3 mois plus tard, il était capable de se nourrir, d'utiliser son téléphone portable, d'écrire son nom et d'utiliser un fauteuil roulant motorisé. Oui, waouh, c'est ce qu'on se dit tous en lisant ce genre de nouvelles. Il faut y croire, mes amis, il faut y croire. Combat contre l'exclusion sociale, Microsoft espère embaucher plus de développeurs autistes. En principe, lorsque quelqu'un postule à un emploi chez Microsoft et passe plusieurs niveaux d'appréciation, la validation du CV, l'entretien téléphonique, etc. Il est invité sur le campus de Redmond pour un entretien final avec des responsables. Mais là, avec des personnes autistes, il sera question de répondre. Les autistes par l'entretien classique pour évaluer les candidats. Ici, les candidats seront invités à passer 2 semaines sur le campus, à travailler sur des projets, tandis qu'ils sont observés de temps en temps par des responsables qui ont l'intention de les prendre dans leurs équipes. Et c'est seulement à la fin de cette étape que les entretiens plus conventionnels vont avoir lieu. Ceci explique cela. On comprend bien qu'avec des personnes autistes, les entretiens tout de suite en arrivant comme ça, c'est évidemment beaucoup plus difficile. Alors que quand on les met tout de suite dans leur milieu, où ils se sentent confortables, en l'occurrence la résolution de problèmes, eh bien les choses se font plus rapidement. En rafale maintenant, les groupes de soutien d'Inca pour les personnes vivantes avec une perte de vision et leurs proches recommencent la semaine prochaine. Je vous signale qu'il reste encore quelques places pour les 2 groupes pour 2 groupes. Le groupe pour les proches aidants le mercredi soir de 17h30 à 19h et le groupe de soutien le jeudi en après-midi, de 13h30 à 15h. Ça se passe à l'Inca, au 3044 rue de Lille à Montréal, à 2 pas du métro Lionel Groulx, rue de Lille, au 3044 à 2 pas du métro Lionel Groulx. Et puis on célèbre la vitalité des personnes handicapées aux journées québécoises des lésions médulaires 2016. Moelle épinière et motricité Québec, Mémo Québec est heureuse d'annoncer le retour des journées québécoises des lésions médulaires du 10 au 22 septembre, donc en ce moment même, 2016, présentée par la Fondation Martin Matt. La 2e édition de cet événement se déroule sous le thème « Autonomie en déploiement ». Une autre nouvelle, c'est en ce moment qu'a lieu le congrès canadien de l'AVC. C'est en effet du 15... ça va commencer donc demain le 15 jusqu'au 17 septembre, donc 2 jours à Québec. Voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui, pour les paractualités en tout cas. Merci de les avoir suivis. Merci Anne-Laure Janson pour la recherche et Jean-Sébastien Laliberté.